Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Où vas-tu comme ça, Heidi? Si tu habitais ici, tu serais déjà arrivé chez toi. Viens t'amuser avec le clown. Tu flotteras en bas. Viens, on flotte tous en bas. Tout le monde flotte.
Vous êtes complètement fous.
Et alors, où est le problème? Regardez ça, fait des merveilles avec moi.
Ça n'a rien d'une petite fête, Joker. Gandhi, débarrasse-moi de lui.
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? L'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de coup bas, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris ?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Dans cette émission, on aime faire vivre des oppositions imaginaires entre des personnages de fiction, des animaux ou même des vrais gens parfois. Aujourd'hui, cet épisode est déconseillé aux personnes coulrophobes, puisqu'on vous propose un combat de clowns diaboliques. Je ne parle pas d'une baston entre Bernard-Henri Lévy et Alain Finkielkraut, non, non, rassurez-vous. À ma gauche, j'ai Gripsou, Pennywise en VO, le vilain de ça, inventé par Stephen King, et qui est maintenant présent en roman et en film, et ou en téléfilm, on y reviendra, on reviendra dans la nuance. Et face à lui, j'ai le Joker, le génie du crime de Gotham City, et l'ennemi préféré de Batman, comme on l'apprend dans Lego Batman notamment. C'était une bonne occasion aussi pour se plonger sur ce face-à-face parce que ça, chapitre 2, vient de sortir en Blu-ray et en vidéo à la demande et c'est imminent pour Joker de Todd Phillips que vous pourrez découvrir en vidéo avant la fin du mois si vous ne l'avez pas encore vu. Alors, à combattant exceptionnel, intervenant exceptionnel, puisque chacun de nos vilains maquillés aura un avocat ou une avocate pour le représenter. Alors je vais commencer par Émilie. Bonjour Émilie, comment ça va?
Bonjour, ça va, merci.
et puis, en face de moi, Thomas est là également.
Salut Martin.
Après avoir parlé de Sin City et des Schtroumpfs et de Darkseid et Thanos, il revient.
Il revient avec le sourire.
Le sourire du Joker.
Je vais vous laisser vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs. Je vais commencer par Émilie.
Alors, moi, je suis la personne qui se cache derrière le site Stephen King France. Alors, je prononce Stephen parce que c'est à l'américaine, voilà, mais on peut dire Stephen aussi, c'est pas très grave. Et donc, moi, je m'occupe de relayer toute son actualité en français. Et il y en a pas mal, surtout là, ces deux dernières années, avec beaucoup, beaucoup d'adaptations. Et vu qu'il publie toujours deux ou trois livres par an, il y a pas mal de choses à dire. Et j'ai aussi deux podcasts qui sont dans le label Podcut. Il y en a un, c'est Le Roi Stephen, où on est une bande de six. Et chaque mois, on décortique une œuvre, donc une nouvelle ou un roman, et on parle des adaptations, de la place dans l'œuvre globale de King, tout ça. Et j'en ai un autre aussi, que je sors deux fois par mois, qui s'appelle La Gazette du Maine, et qui résume son actualité.
Ok, voilà. Super. Bon, on mettra tous les liens en description, bien sûr, super. Pour qu'on puisse retrouver ça facilement. Ouais. Et toi, Thomas, alors, certains te connaissent, mais...
Ah oui, c'est ça, quelques-uns m'ont peut-être déjà entendu, et sinon, moi je suis le rédacteur en chef de Bubble, et donc je m'occupe de tout ce qui est chronique, dossier, consacré à la bande dessinée sur ce site, et j'ai lancé récemment un podcast qui s'appelle The Cold Case.
Qui parle de...
Qui sont une série d'investigations liées à la bande dessinée, où l'idée c'est de prendre un personnage très connu et de dévoiler quelque chose de pas connu, et de faire comme si c'était une enquête policière, avec des vieux dossiers.
Très bien, oui. Donc, par exemple, récemment, on a appris, dans le premier épisode, on a appris qui a failli tuer Batman.
C'est ça.
Et ce n'est pas le Joker.
Et ce n'est pas le Joker.
Spoiler. Bon, bah, très bien. Alors, avant de lancer la baston entre ces deux clowns, je vais vous demander de les présenter un petit peu chacun, en commençant toi, Émilie, par ton poulain.
Alors, mon poulain, c'est Gripsou. En VO, c'est Pennywise, comme tu l'as dit. Alors, c'est pas tout à fait un clown, mais c'est la forme d'un clown. Parce que derrière Gripsou, on a une entité maléfique qui s'appelle Sa, qui est l'ennemi naturel de Mathurin la Tortue. Donc, Mathurin la Tortue, elle représente le bien dans l'univers de King. Et pour l'anecdote, elle a donné naissance à notre univers. Et en fait, elle l'a vomi un jour où elle avait un peu mal au ventre. Donc, ça en dit long sur l'humour de King dans ce roman. Donc, Sa, il incarne le mal. Il est pas de notre univers, il vient d'un univers qu'on appelle le Macroverse et qui existait bien avant le nôtre, et il est géré par une entité qu'on appelle l'autre, mais dont on ne sait pas grand chose. Il est notamment multimorphe et il se sert de ce pouvoir pour prendre la forme de ce qui va effrayer les gens, parce que ça, il se nourrit de leur peur. Gripsou, c'est donc sa forme de clown, et elle se présente elle-même comme Gripsou le clown dansant ou Gripsou le clown cabriolant en fonction des traductions des livres ou des traductions de certaines adaptations. Ça varie un petit peu. Et je dis elle parce que dans le roman de King, on apprend à la fin, et je spoil pas parce qu'il est sorti en 86, donc à un moment donné, il faut savoir, hein, il y a prescription. On apprend à la fin que Gripsou est une femelle, que ça est une dame en fait, parce qu'elle pond des œufs.
Ah, d'accord, voilà. Ok. Comme la reine des aliens.
Oui, exactement.
Très bien.
Gripsou est une fille.
Bon, bah merci. Écoute, j'ai déjà appris énormément de choses sur Gripsou que je savais pas. Super intéressant. Et alors, toi, Thomas, ton clown à toi, qui c'est?
Alors, le clown que je représente ce soir est donc le grand ennemi de Batman, son antagoniste favori qui revient dans ses plus grandes aventures. Et donc, lui, il a été créé au tout début. En fait, il arrive un an après Batman, dans le Batman numéro 1. Créé en fait par trois créateurs, donc Bill Finger, Bob Kane et Jerry Robinson, qui sont les trois créateurs du début. Et en fait, c'est un personnage qui a pas de passé. Donc depuis le début, on n'explique pas qui il est. On ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière le maquillage blanc. Et au fil des années, il a eu plusieurs incarnations. Donc la première, ça a été Red Hood, l'homme au masque rouge, que Alan Moore a réutilisé dans The Killing Joke. Et la plus récente, donc c'est Arthur Fleck, qui est dans le film Joker de Todd Phillips.
Très bien. Bon, on va revenir un petit peu là-dessus. C'est vrai que le Joker, on devrait presque dire les Jokers, tellement
oui,
il y a eu
ça.
De versions différentes.
Ouais, c'est ça. Alors, c'est la particularité du comics. Dans tous les comics américains, en fait, il y a plusieurs trames, il y a des continuités, hors continuité, et selon les auteurs, selon les directeurs artistiques, ça se reboot, ça recommence, et donc il y a plusieurs visages du Joker. Il a pas les mêmes origines, pas les mêmes noms. Il y a des Jokers qui sont très intégrés dans la ville façon polar, et puis il y en a qui sont fantastiques avec des pouvoirs, donc il y a plusieurs visages, je pense qu'on va le voir au fil du podcast.
C'est un peu facile.
Le spoiler, ce n'est pas une femelle. Il ne pond pas d'œuf.
Ah, on sait jamais. Peut-être que dans un prochain comics, ce sera une femelle qui prendra des œufs, on ne sait pas.
On n'est pas à l'abri de ça.
Ok, on n'est pas à l'abri.
Bon, bah merci. Bah écoutez, là je pense qu'on voit bien qui est qui. Hein. Ils sont passés sur la pesée, ils ont mis leur gants de boxe et maintenant ils sont sur le ring.
Salut, Georgie. Qu'est-ce qu'on dit? Salut, clown. Oh, dis-moi bonjour. Est-ce que tu veux un ballon?
Je dois pas accepter de choses de la part d'un inconnu. Papa, il m'a dit ça.
C'est très sage d'avoir dit ça, Georgie. C'est vraiment très sage. Moi, Georgie, je m'appelle Gripsou. Je suis le clown cabriolant. Tu es Georgie. Maintenant, nous nous connaissons. Pas vrai?
C'est vrai, oui. Je dois rentrer.
Ah, rentrer? Sans ça?
Ah, mais c'est toi qui as mon bateau.
C'est lui en personne. Prends, il est à toi. Prends-le. Oh. Tu tiens ton bateau, Georgie. Je t'assure, tu sais, Georgie,
y a des sucettes et des manèges et toutes sortes de surprises ici en bas. Et des ballons aussi de toutes les couleurs.
Est-ce qu'il flotte?
Ah oui. Il flotte, Georgie. Il flotte. Et quand tu seras en bas avec moi, tu flotteras aussi.
Alors, on va commencer par le round un petit peu traditionnel dans cette émission. C'est un peu le round des chiffres et de qui a le plus d'aura, qui est le plus connu. Donc, j'ai formulé la question de la manière suivante. Qui est le plus connu? Et là, j'aimerais vous demander chacun, bah, finalement, si vous avez pu savoir, parce que c'est pas toujours facile, quels sont les chiffres clés de ces deux super méchants? Alors, je parle pas de leur âge, de leur taille ou de leur poids, mais plutôt combien ils ont vendu de films, de comics ou autre. On va voir ce qu'on a pu trouver.
Bah, pour Gripsou, pour la partie Roman King, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas avoir les traces de vente d'un roman en particulier. Surtout qu'en fait, il faudrait remonter auprès de l'éditeur d'origine de la première édition, donc c'est impossible à tracer. Mais on sait que King a vendu plus de 350 millions d'exemplaires et que Gripsou, enfin ça fait partie quand même de ses livres les plus connus et qu'il a été traduit en 32 langues, il me semble que j'avais vu. Et que King, lui, est traduit dans plus de 40 langues, et selon certains sites, il serait le 10e auteur le plus traduit au monde.
D'accord.
Donc on a au moins ça comme base pour les bouquins. Après, on sait aussi que grâce à la sortie le premier chapitre de la nouvelle adaptation, donc le chapitre 1 qui est sorti en 2017, King, il a fait un bond dans le classement Forbes des auteurs les mieux payés, avec les chiffres qui lui sont revenus. Je reviendrai après sur les chiffres des adaptations, parce que là, on a un peu plus de chiffres. Mais où, du coup, ça a été un tel succès que ça a influencé les livres, les ventes de livres. On a vu beaucoup de rééditions, beaucoup de même en France, hein, des coffrets, des deux tomes, etc. Donc pour le livre, on n'a que ça. Vu qu'il n'y a pas d'adaptation en comics, on peut pas aller plus loin que ça.
D'accord, ok. Et alors, au niveau des adaptations, alors?
Sur les adaptations, on avait le premier téléfilm qui est sorti en deux parties en 90. Côté chiffres, vu que c'est un peu ancien, les seuls que j'ai pu retrouver, c'est que lors de la première diffusion aux États-Unis, les deux parties ont fait respectivement 18% et 20% de part d'audience, ce qui est beaucoup. Ça représente 17,5 millions et 19,2 millions de téléspectateurs.
D'accord, donc deux fois la Suisse, par exemple.
Oui, disons la moitié de la France, quoi,
voilà.
Juste sur ça. Juste sur la première diffusion aux États-Unis, sachant que c'était en 90, et qu'en France, le téléfilm, ça, je pense qu'on a à peu près tous le même âge, on pourra en témoigner, les rediffusions, enfin le téléfilm sur M6 dans les années, dans les années 90 et début des années 2000, ça passait tous les ans, tout le monde a été traumatisé par ça.
Ouais.
Donc là aussi, je pense qu'il y a eu pas mal d'argent qui s'en est fait, et il y a eu beaucoup de DVD, de ressorties de DVD, il y a un documentaire qui est en train de se préparer parce que c'est devenu un peu iconique, donc il y a encore tout un marché autour de ça. Mais déjà pour les deux nouveaux chapitres adaptation 2017, après 21 semaines, il avait rapporté 700 millions de dollars au box-office.
Ah oui.
Ce qu'il a classé comme film le plus rentable de l'histoire, film d'horreur le plus rentable de l'histoire du cinéma.
D'accord.
Et le deuxième, qui est sorti en 2019 à la rentrée, il a fait, au bout de quelques semaines, il était à 472 millions en box-office.
Ok, très bien. Bon, à toi, Thomas, de répliquer à ça.
Ça marche, je vais prendre ma boîte comptable. Non, alors c'est difficile aussi de trouver des chiffres sur le Joker seul, puisqu'on trouve évidemment des chiffres sur Batman plutôt. Mais bon, comme il est dans pas mal de Batman, je vais donner quelques chiffres sur le comics. On parle de 477 millions de comics, tout confondu, qui ont été vendus pour 11 000 titres différents. Donc ça, c'est les chiffres à peu près qu'on trouve. Donc avec un record de vente pour un Batman qui s'appelle Tencent Aventure en 2002 avec 700 000 singles vendus. Donc ça, c'est énorme.
Ouais.
Et Batman, on le trouve à la radio, en série TV, en film, en dessin animé, en jeu vidéo. Des films, il y en a au moins 16. Des dessins animés avec le Joker, j'en ai compté au moins 11. Mais du coup, il y en a peut-être plus. Des jeux vidéo, on parle de 103 jeux vidéo. Et je ne sais pas dans lesquels on trouve du Joker ou pas. Je ne suis pas allé chercher. Côté adaptation, j'ai pris les films où donc on voit le clown dedans, le Dark Knight donc de Nolan. Donc les chiffres en fait, ils annoncent 533 millions de dollars.
D'accord.
Donc
pour
c'est
le box office.
Ouais, c'est énorme au box office. Le Batman de Burton en fait où où le Joker est joué par Jack Nicholson. Donc là, c'est 251 millions.
Et mais de l'époque du coup
voilà de donc, l'époque et ajusté ouais. ça ferait 500 millions donc
d'accord.
C'est à peu près pareil donc c'est énorme aussi les, ces deux là et donc le dernier le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix donc il a dépassé le milliard et c'est le film classé adulte rated R le plus fort en tout cas. Et j'ai lu aussi qu'il était dans le top 10 des films les mieux notés sur IMDb. Donc ça aussi c'est assez impressionnant. Et j'ai noté aussi des chiffres sur le jeu vidéo, sur le Arkham Asylum, qui est donc le, un jeu vidéo qui reprend un peu une trame d'un comics où le Joker est, est vraiment à l'honneur. Et il parle de 3 millions de copies vendues sur ce seul jeu, et c'est une trilogie. Donc j'ai pas tous les chiffres, mais c'est assez costaud. Ouais.
D'accord. Ok, bon, donc c'est à moi de les départager là.
J'ai pas terminé.
Ah,
on a des arguments surprise, deuxième, je crois.
Exactement.
Parce que la question, c'est pas lequel a fait le plus de chiffres, c'est lequel est le plus connu.
Oui.
Et,
vas-y.
Et déjà sur Gripsou, je le disais tout à l'heure, mais le téléfilm est passé sur M6 tous les ans pendant des années et il passe encore maintenant à des heures de grande écoute. Donc je pense qu'il a touché un public très très large et pas que des lecteurs, pas que des fans de films d'horreur, parce qu'à ce côté un peu téléfilm culte, il faut l'avoir vu, comme on a vu les Tommy Knockers et Langolier, des trucs pas forcément de bonne qualité, et qui du coup a touché je pense un public qui n'est pas un public forcément que geek. Et surtout tu parlais en intro de coulrophobie. Et la coulrophobie, c'est la phobie des clowns. Au début des années 2000, il y a eu des syndicats aux États-Unis de clowns qui ont manifesté contre King, parce que pour eux, King est, le, est la source de la coulrophobie. Pour lui, si on n'aime pas les clowns, si aujourd'hui il y a des evil clowns, c'est parce qu'il a créé ça et que ça a une telle popularité que maintenant les clowns, c'est forcément des méchants. Et qu'eux, ils perdent dans leur métier, ils ne peuvent plus aller faire les anniversaires des enfants. Et même quand le, avant 2017, quand on a annoncé la sortie qu'un nouveau film se préparait, il y a des syndicats qui se sont saisis de Warner et qui ont dit non, non, hors de question, ça va encore entacher notre image, on veut pas. Donc le clown méchant, c'est le clown de King.
Hashtag not all clowns.
C'est ça.
Mais je vois bien les enfants. Et maman, pourquoi ce clown ne pompe pas d'œufs par la bouche? Il est nul cet anniversaire.
Ok, bon écoutez, moi j'ai envie de... Alors c'est un peu biaisé, mais j'ai envie de donner le point.
Alors moi j'ai envie de sortir un Joker, faut mon Joker.
T'as un Joker ou pas?
Ouais, j'ai un Joker.
Ah vas-y,
je vais prendre le Joker de l'argument de la reconnaissance. Attention,
vas-y.
Attention. Les, en fait, les acteurs qui ont joué le Joker, ils sont plusieurs.
Ouais.
Donc il y avait César Romero dans la série et le premier film,
ouais.
Jack Nicholson, Heath Ledger, Jared Leto et Joaquin Phoenix. Et en fait pour Joaquin Phoenix, Jack Nicholson et Heath Ledger, ils ont eu tous un Golden Globe pour leur rôle, donc c'est assez impressionnant. Heath Ledger, il a eu un Oscar posthume. Joaquin Phoenix a un Lion d'Or récemment. Et il y a eu 11 nominations aux
Oscars.
Voilà, donc là il y a un truc social
c'est vrai.
Dans le milieu de reconnaissance assez impressionnant. Donc ce qui veut dire déjà pour les gens qui jouent ce personnage, c'est déjà un bon plan. Sauf sauf pour Jared Leto.
Oui bon, c'est pas grave,
un petit accident, mais pour les autres en tout cas c'est assez chouette. Et plus il y a autre chose assez cool aussi, c'est que dans les dessins animés, celui qui fait la voix, c'est Mark Hamill.
Oui, c'est vrai.
Ah, oui.
Donc Luke Skywalker, qui prête sa voix au Joker, et il le fait super bien.
Super
bien.
Il est hyper apprécié. Ouais.
Il est hyper apprécié, et c'est un gros déconneur sur Twitter. Il s'amuse à lire des tweets de Donald Trump avec la voix du Joker. C'est hilarant, quoi. C'est génial. Et donc voilà, et le Joker, pareil, c'est une figure hyper connue. On le voit beaucoup en ce moment dans des manifestations. Il y a des gens qui se déguisent en Joker. Enfin, c'est devenu un marqueur social, un peu comme le masque des Anonymous. Donc c'est une figure qui est très présente pour les gens. Enfin, on le reconnaît immédiatement, c'est ce que c'est.
Écoutez, j'ai bien entendu vos arguments. Et nonobstant ce dernier Joker pour le Joker, je tiens quand même à donner le point à l'alien métamorphe. Je sais plus comment l'appeler du coup, hein, Gripsou, ça.
Non, Gripsou, c'est bien.
les Agripsou. Pourquoi ? Parce que Joker a deux avantages quand même, qui biaisent peut-être un peu le combat. Le premier, c'est que le Joker est quand même indissociable de Batman. Donc il est quand même beaucoup dans la roue de pas forcément dans la roue de Batman, mais il profite aussi de la popularité de Batman pour être populaire lui aussi. Et d'ailleurs, ça donne un truc vraiment hilarant dans Lego Batman, où le Joker insiste beaucoup sur sa relation avec Batman, et Batman lui dit « Mais non, en ce moment, je n'ai pas un méchant particulier. Je papillonne un peu avec plusieurs méchants. »
Le polyamour.
C'est hyper drôle. Et donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est l'ancienneté. C'est vrai que Joker étant là depuis, redis-moi la
80
date.
80 ans, enfin 79 ans.
Voilà, il faudrait, si on fait un prorata, peut-être que, je ne sais pas.
C'est plus vieux que King. King a 72 ans.
Ouais, et le livre
et
date de 4, et surtout le
86.
Ouais, 86. Donc ouais. Finalement, en 30 ans d'existence, je me dis qu'au prorata, en 30 ans, il a fait. Bon, mais.
Avec l'inflation.
Donc on est obligé de dire, effectivement, le Joker est plus connu, il a plus vendu, il a plus en quantité, c'est indéniable, mais en tant que juge totalement qui fait ce qu'il veut, je donne le premier point à Gripsou. Ça va Thomas,
bien.
Tu m'en veux pas
trop. On se retrouve au deuxième round.
ce n'était que le premier.
Parce que cette fois, je te tiens.
Ah oui ? Ben alors, il y a juste un petit problème. Qui va neutraliser la bombe ? Va falloir que tu choisisses, Batman. Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi. Tu peux pas faire les deux.
Pardon, tu as dit quoi ?
J'ai dit tu peux pas faire les deux.
Non, je parle de l'autre truc.
Tu sauves la ville ou tu captures ton pire ennemi ?
Tu crois que t'es mon pire ennemi ?
Oui ! T'es obsédé par moi !
Pas du tout.
Bien sûr que si.
Non, pas du tout.
Bien sûr que si. Qui d'autre que moi te fait péter un câble de colère ?
Bane.
Non, c'est pas vrai.
Superman.
Superman, c'est pas un méchant.
Je dirais qu'en ce moment, je n'ai pas un méchant attitré. Je me bagarre avec plusieurs personnes différentes.
Quoi ?
Bah oui, à droite, à gauche.
Bon, écoute, ça me pose pas de problème que tu te battes avec d'autres si t'as envie de le faire. Mais ce qu'il y a entre nous, c'est exceptionnel.
Alors, deuxième round, bon, il va aller un peu plus vite celui-là. Quoique, peut-être que vous allez me surprendre. C'est des clowns. Et un clown, c'est censé être drôle.
Ouais.
Sont-ils drôles ? Si oui, lequel est le plus drôle ?
Sur la question de Gripsou, c'est compliqué parce qu'il est, en fait, il est drôle malgré lui. Parce que c'est un alien qui est dans la peau d'un clown, donc qui comprend que pour attirer les enfants, il doit être drôle ou faire des trucs drôles, mais qui est maladroit parce qu'il est ni un humain doté d'humour, ni un clown. Donc ils en ont beaucoup joué justement dans la nouvelle adaptation parce que il fait des choses un peu complètement à côté de la plaque et du coup il est drôle parce qu'on se moque de lui. Mais le seul humour qu'il pourrait avoir, c'est l'humour que King a, parce que King a beaucoup d'humour dans ses romans et il l'a pas vraiment doté d'humour. Donc il est plus risible que vraiment drôle.
Ok, d'accord. Bon. Ça part mal quand même pour
ça. Part un
pour
peu
ça.
Mal, ouais.
Bon. Et toi, Thomas,
et
alors ?
Côté Joker, bah, je vais partir du plus récent, donc du Joker dans le film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Lui, c'est pareil, en fait, il a un humour, mais que personne ne comprend. Ouais. Donc, il rit à contre-courant. Il y a une scène qui est géniale où il va voir des stand-uppers et en fait, il rigole quand personne ne rit. Et quand les autres rient, il regarde en se demandant pourquoi les autres rient. Mmh. Et donc, ça, c'est assez hallucinant. Et puis, il fait lui-même des blagues. Et donc ça, donc comme on le disait, c'est une variation qui vient un peu de The Killing Joke avec cet humoriste raté. Et toute la tradition du Joker, c'est quand même, ça vient de L'homme qui rit de Victor Hugo. Donc en fait, c'est le personnage a été inspiré de Victor Hugo car la pièce était jouée aux États-Unis. Donc les auteurs avaient vu avec Conrad Veidt comme acteur. Donc ils sont inspirés pour le côté graphique, mais aussi pour le côté L'homme qui rit avec ce personnage. Et donc, il a un rire sinistre et il a eu plusieurs incarnations, notamment entre les années 50 et la fin 70, où il était un peu un bouffon. C'est-à-dire qu'il faisait beaucoup plus de blagues. Quand il attrapait Batman, il y avait souvent des pièges très élaborés, un peu marrants. C'était pas vraiment violent. Le tournant violent, il arrive en fait avec Frank Miller et The Dark Knight Returns, où en fait on découvre que le Joker, il était à l'asile, et il était apathique, et quand Batman, 10 ans après avoir pris sa retraite, reprend sa cape, le Joker a envie de faire pareil en fait, et il se repose en antagoniste violent. Et après ça, donc Alan Moore, donc ce qu'on a cité, et encore après ça, il y a un deuil dans la famille, qui est un comics ultra violent où en fait le Joker va passer la ligne rouge. En fait, il va tuer Robin. Il va tuer le second Robin et à partir de là, bah, il aura traversé le Styx, donc il pourra plus revenir, on pourra plus le sauver, quoi. Il est devenu un meurtrier.
Mais il n'était pas avant, du coup ?
Non, en fait, il a toujours été le personnage un peu violent, méchant, mais il n'y avait jamais jusqu'au meurtre. Ou alors ils étaient un peu cachés. Il était criminel, il a été voleur, il a été beaucoup de choses, mais il n'y avait jamais eu ce côté malsain. Mm. Et en fait, donc
King Joe qui était quand même déjà.
Oui, donc King Joe, donc, c'est pareil, il est un peu vieux, je spoil un peu, donc wow. si vous voulez avancer un peu. Mais donc en fait, il tire sur Barbara Gordon, qui est la fille du commissaire Gordon. Qui est aussi Batgirl et qui est aussi Oracle, et en fait il la rend paraplégique. Après, il kidnappe Gordon, il le torture en lui montrant des photos de sa fille. Voilà, c'est très violent en fait, moralement, et même les auteurs reconnaissent qu'ils sont allés très loin avec le recul. Mais voilà, c'est à partir des années 80 qu'il devient vraiment malsain, noir, violent. Et là, très récemment, les incarnations les plus récentes en comics, c'est avec Scott Snyder aux commandes. Et en fait, là, par exemple, dans Batman Metal, Batman a tué le Joker, mais a été infecté par son virus et est devenu Batman qui rit, un espèce de Batman malsain qui veut éliminer tout le monde. Donc, il vient d'un univers parallèle, parce que dans chez DC, comme chez Marvel, il y a plusieurs univers, il y a plusieurs terres. Et donc, il a éliminé tous les super-héros de son monde à lui, et il arrive sur le nôtre. Et c'est compliqué parce qu'il a l'intelligence de Batman, la tactique et la folie du Joker. Donc, il est très violent.
Bon, du coup, il était. À partir des années 80, il était plus très drôle.
Mais il était le sinistre, drôle, sinistre.
Ouais.
Mais il a eu une période très bouffon, très marrante. Et justement, on parlait de Mark Hamill, cette période-là. les dessins animés de Bruce Timm. Donc, on a tous regardé ça, Batman. Quand on était jeune, c'était les meilleurs dessins animés, même encore aujourd'hui. Et là aussi, il est plutôt marrant. Et, c'est là où ils ont inventé Harley Quinn aussi. Mmh. Et donc, leur duo aussi est assez comique. Mmh. Et, même si parfois, il est un peu violent moralement aussi. Mmh. Mais...
On voit que Jared Leto comique. Était assez rigolo aussi.
Ouais, mais pas dans le bon sens.
Malgré lui, comme Klebsou, un peu malgré lui.
C'est ça.
Bon, est-ce que vous me permettrez de donner le point au Joker pour le Batman 66, en fait, pour la série avec César Romero qui en faisait des caisses et les trucs complètement délirants graphiquement qu'on y voyait.
C'est vrai, ouais. Ouais, je l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que lui, il avait un parti pris un peu...
Cartoonesque,
ouais, complètement. Il y avait pas du coup la méchanceté folle qu'il y a eu après. Et c'est Jack Nicholson qui a un peu rectifié, qui lui s'est inspiré beaucoup d'Alan Moore et Brian Bolland. Et lui, il a rectifié ça en le donnant un côté malsain, quoi, vraiment. Et dans ce film-là, c'est lui qui assassine les parents de Batman. Enfin, du coup, avec cette fameuse phrase avez-vous déjà dansé avec le diable au clair de lune, qui est devenue hyper impactante. Puisqu'on l'associe au diable, quoi.
C'est vrai qu'on sait pas trop ce qui est arrivé aux parents de Batman. Ça serait bien qu'un jour on ait un film qui nous explique enfin pourquoi Batman est traumatisé.
Une vraie original story.
Ouais, qu'il fasse un petit reboot, qu'on comprenne, quoi.
Mais plus un après, plutôt.
Bon, très bien. Bon, écoutez, j'attribue le point au Joker, mais enfin, finalement, on s'est rendu compte que l'un comme l'autre étaient des clowns qui étaient pas super, super marrants, quoi.
Non,
non.
Du tout.
Bon, ben, ça nous fait un partout.
Un peu jeune pour toi, Richie. Bip, bip, Richie.
J'ai rien entendu. Rien du tout.
Je vous demande pardon. Viens là-haut, Richie. J'ai un ballon pour toi. Tu veux un ballon? Qu'est-ce qui se passe? Un seul ballon ne te suffit pas.
Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, monsieur?
Tes associés t'attendent avant que la nuit ne soit tombée. Tu es trop vieux pour me combattre. Vous êtes tous trop vieux.
Alors, on s'est posé la question de qui était le plus marrant et on a vu qu'ils n'étaient pas ultra marrants. Par contre, on a bien compris qu'ils étaient bien, bien méchants.
Ah, ça, ouais.
Alors, la question est toute simple, hein, qui est le plus méchant? Je crois que vous avez déjà amené pas mal d'arguments l'un comme l'autre sur ce sujet-là. Toi, Emily, qu'est-ce que tu voudrais rajouter par rapport à ce que tu as déjà pu dire?
Contrairement à Joker, lui, Grypso, il est sur Terre pour tuer. En fait, il atterrit sur Terre un peu comme un astéroïde, on nous dit, il y a des millions d'années. Il est rentré en hibernation, il a attendu que des humains débarquent. Pour les tuer, mais en plus il a une façon de tuer, il mange pas très proprement quoi, il en fout un peu partout, il arrache des bras, il arrache des yeux, oui. Il y a des bouts de corps partout, en fait il vient, il se nourrit et il repart pendant 27 ans, donc il a des cycles comme ça, et les cycles quand il revient sur Terre ou quand il sort de son hibernation, elles sont toujours marquées par des grosses violences, des grosses catastrophes qui tuent tout le monde et même des gens dont il va pas se nourrir. Et il est méchant. Moi, j'ai plusieurs points quand même pour expliquer à quel point il est méchant. Déjà, il est sadique, parce que vu qu'il se nourrit de la peur, il joue avec les nerfs des gens. Il va les torturer mentalement, psychologiquement et même physiquement pendant des jours pour faire monter leur peur, donc pour faire monter leur saveur. Il est même très vicieux parce qu'il incarne les vices des êtres humains, il absorbe un petit peu tout ce qui est mauvais entre nous, à tel point que dans le roman de King, ce qu'ils n'ont pas trop osé mettre dans les adaptations, il est vicieux, il est pervers et il est presque pédophile. Il a des approches auprès des enfants qui sont très très limites, et King aime beaucoup jouer avec cette limite-là. Il est toujours en train de dénoncer de la pédophilie, de l'inceste, et dans ça il y en a beaucoup et c'est très très malaisant. Il est aussi très assoiffé de peur et de sang, et c'est pour cette raison qu'il s'en prend aux enfants, parce que les adultes, ils sont très difficiles à effrayer. Nous, à notre âge, nos peurs, c'est la solitude, le chômage, la guerre, et vu que lui, il est métamorphe, il se dit, je peux pas moi incarner la peur, donc ce que je vais faire, je vais m'attaquer à des enfants, parce qu'ils sont faciles à impressionner, ils ont peur des loups-garous, ils ont peur des momies, ils ont peur des lépreux, parce qu'il y en a un, il est hypochondriaque, donc il a peur des maladies, donc pour vraiment leur faire le plus peur possible, il va incarner ce qui leur fait le plus peur. Donc sa forme préférée, c'est le clown, parce que les clowns sont censés attirer les enfants, et qui va pouvoir créer cet effet de surprise au moment où il va se transformer ou ouvrir sa gueule avec des grandes dents. Et le côté clown pour attirer les enfants, il est pas évident dans la nouvelle adaptation, parce qu'on a déjà un Grypso qui a un visage qui fait un peu peur. Mais si on prend le téléfilm de 90, donc où c'était Tim Curry qui faisait Grypso, on est dans un clown qui est proche du Ronald McDonald, qui est proche du clown qu'on va mettre dans les bouquins de nos gamins, et qui vraiment est censé attirer l'enfant et attendrir l'enfant, juste pour mieux le croquer après. Et donc, comme je disais, de toute façon, après, quand il s'en prend aux enfants, il arrache un bras, il le grignote dans un coin, et voilà, on est vraiment dans le sanglant, hein, on est toujours chez Kings, il y a des boyaux, il y a des têtes arrachées, il y a des yeux crevés, il y a ce genre de choses. Et il a une dernière force qui fait de lui un méchant, c'est qu'il est... en fait, il arrive à jouer sur la mémoire des gens, il arrive à influencer leurs souvenirs. Donc, c'est-à-dire que quand il part pour un cycle de 27 ans, les gens ont oublié qu'il y a eu toutes ces tueries, et les parents ont oublié qu'ils ont eu ces enfants-là, même le club des ratés, quand après la première bataille, ils partent tous de Derry, et ils oublient qu'un jour, ils ont combattu un clown qui est diabolique. En fait, il a cette influence-là qui lui permet de revenir 27 ans après, comme si de rien n'était, et de tout défoncer, et de tout casser, et de manger tout le monde, et puis il repart, et c'est comme si de rien n'était.
C'est tellement une métaphore puissante sur, effectivement, tu as parlé de la pédophilie, et qui aussi provoque parfois de l'oubli, enfin de l'amnésie chez les victimes,
en fait,
qui l'enfouissent, et ça disparaît, ça réapparaît à l'âge adulte parfois.
King, il a eu une étiquette d'écrivain d'horreur, mais chez lui, l'horreur, elle est plus que de la simple horreur gratuite, c'est une métaphore de quelque chose. Lui, il est là pour dénoncer. Il y a des choses qui lui plaisent pas, des choses qui le tracassent. Et il va en trouver des façons d'en parler et de les dénoncer en créant des personnages comme Grypso, en faisant, en mettant un peu de fantastique dans ses récits, juste pour dire, on vit dans un monde terrible, quoi. Il a un peu cette vision-là. Ouais. Grypso est vraiment méchant. Il est là pour faire saigner des enfants, quoi. Il rigole pas.
Bon. Alors, répasse ça, Joker. Est-ce que tu fais saigner des enfants, Joker?
Alors, Joker, c'est pas un tendre, et justement, on parlait des différentes incarnations, donc j'ai parlé pas mal du comics, mais en fait, ils sont bien matérialisés dans les films. En fait, du coup, je vais prendre l'exemple des films pour qu'on comprenne. Par exemple, Jack Nicholson, donc dans le film de Burton, il incarne ce petit côté cruel. Donc en fait, il contamine des gens avec son gaz mortel. Il est content, il en joue. Donc il a un petit côté malsain, cruel, sadique. Et en fait, ça a monté crescendo parce que le film de Nolan avec Heath Ledger qui joue le Joker peut-être le plus réussi dans le côté iconique. Lui, c'est vraiment de la méchanceté pure. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'il fait, c'est motivé juste par voir les gens souffrir, manipuler. Tout ce qu'on voit dans le film, on met en scène la cruauté vraiment de ce mec-là. On ne sait pas d'où il vient. Justement, il joue vachement sur le côté. Il n'a pas d'origine. Il n'a pas d'excuses. Ce qu'annule un peu le film avec Joaquin Phoenix. Parce que lui, il a finalement une excuse, on entre en empathie, c'est un délaissé de la société, on voit sa progression, son premier meurtre, c'est un accident. Alors après, le deuxième, le troisième, ça sera volontaire et il bascule dans une forme de cruauté. Mais du coup, il a une petite excuse et en fait, c'est un peu ce qui est reproché au film. Il y a une apologie de la violence qui est assez différente parce que, voilà... Dans celui de Nolan, il n'avait pas d'excuses, donc c'était difficile de le défendre ou quelque chose comme ça. Celui de Joaquin Phoenix, il est plus ambigu déjà, il ouvre plusieurs choses. Donc voilà, donc c'est le Joker, il a vraiment été dans la méchanceté de plus en plus pure et noire. Et dans le comic, c'est exactement pareil. Je pense aussi à un comic assez récent qui s'appelle White Knight, donc de Sean Murphy. Et là, il représente le Joker qui s'est amendé. Donc, il arrive à Gotham et il veut se présenter comme maire de la ville, d'un quartier défavorisé. Et c'est Batman qui est pris à partie sur les réseaux sociaux. Bah oui, il est violent, Batman. Il agit sans le consentement de la police. Il faut enfermer ce gars-là. Alors que le Joker, il est repenti, il va mieux, etc. Et donc, il y a toute une manipulation assez forte là-dessus. Et on voit toute le génie du mal derrière, en fait. Et ça, c'est très très bien fait dans les différentes incarnations du personnage. C'est un de ses grands pouvoirs, en fait. On peut parler de ça aussi, l'univers de Batman. Les personnages n'ont pas tous des pouvoirs, contrairement à Superman ou à d'autres. Et donc, Batman est sans pouvoir, mais a des grosses capacités. Et le Joker, c'est pareil, il n'a pas tellement de pouvoirs finalement, mais il a des grosses capacités à l'égal de Batman. Et c'est pour ça aussi qu'ils marchent si bien tous les deux. Et donc, une de ses grandes capacités, évidemment, c'est son intelligence, qui met au service du mal, de l'ultra-mal. Mais évidemment, il a un génie, vraiment un génie, quoi, mais malsain.
Bon. Dites-moi, c'est pas facile à départager tout ça. Hein. Une métaphore de la pédophilie contre un type qui veut mettre le monde à feu et à sang.
Pour le plaisir. Et
pour le plaisir de voir ça.
Ouais, je peux parler d'un autre comics aussi qui est Arkham Asylum, de Grant Morrison et Dave McKean. Là aussi, c'est pas mal parce que le Joker organise. Fait un plan pour que Batman vienne le chercher dans l'asile d'Arkham, qui est l'asile où on enferme tous les super vilains. Et là, il lui a organisé une espèce d'escape game, en fait, avec les autres vilains. Et en fait, avec un seul but, c'est que Batman se rende compte qu'il est aussi fou que les autres et qu'il a sa place ici. Un adulte qui se déguise en chauve-souris pour aller tabasser le mec, pour venger son papa et sa maman. Ouais. Voilà, c'est ce qu'il essaye de lui dire. Il lui dit, t'es comme moi, en fait. T'es vraiment comme moi. Et le comic, c'est hyper bien fait. On sent toute la folie et on a peur que Batman se perde là-dedans, quoi.
Mais Joker, tu disais, il a commencé à tuer dans les années 80. Donc, c'est-à-dire quand le ça de King est sorti. Dans quelle mesure il s'est pas fait influencer par Gripsou en se disant, si les clowns y peuvent tuer, moi aussi je peux tuer, je vais faire comme Gripsou.
Alors, justement, c'est une bonne transition par rapport à un autre petit point qu'on n'a pas complètement abordé, parce que là, pour l'instant, j'arrive pas à les départager, mais c'est cette figure, finalement, transversale du clown maléfique. Je sais pas quand est-ce qu'elle est née vraiment.
Je sais pas.
Moi, la première itération que je connais, c'est dans la réalité, tristement, c'est John Wayne Gacy Jr., qui était un tueur en série et également pédophile, qui était clown par ailleurs. Ne s'habillait pas en clown pour commettre ses méfaits, tout ça. Je crois qu'il y a une inspiration, non, pour King, pas spécialement, vraiment.
Non, alors en fait, il y a plein de sites et de vidéos, tout à fait. Alors moi, j'ai fait un article pour débunker, et dès que je vois passer une info, genre les origines de Gripsou, je balance mon article. En fait, King, lui, il renie jamais ses inspirations, et il a déjà écrit au moins une nouvelle où il a assumé s'être inspiré d'un tueur en série, parce qu'il a dû se justifier auprès de la fille qui a dit « je veux pas qu'on fasse de la fiction sur mon père, machin ». Et pour ça, en fait, il a déjà expliqué ses inspirations, c'est juste qu'il a dit « un clown, je vois pas d'où ça amuse les enfants, c'est pas beau, ça a un gros nez rouge, ça rit hyper fort, ça fait peur aux enfants, et du coup, moi, j'ai pris un clown parce qu'il fera peur aux enfants ». Mais il a jamais, sans avoir nié qu'il s'est inspiré de John Wayne Gacy, il l'a jamais dit et il a donné d'autres explications. Donc on peut pas dire qu'il s'est inspiré de lui.
D'accord.
Après, peut-être que complètement inconsciemment, dans son ça ou dans son surmoi, peut-être, mais non.
D'accord. Et tu sais pourquoi le Joker ? T'as commencé à en parler tout à l'heure avec Victor Hugo, du coup.
Oui, c'est ça. En fait, ils sont inspirés donc de L'homme qui rit, donc il y a une nouvelle de Victor Hugo où il y a un personnage à qui on coupe les lèvres. Donc en fait, qui lui donne ce visage déformé, très effrayant, mais qui est pas une personne méchante à la base. Mais et du coup, c'est ce sourire démoniaque, mais qui est provoqué par la mutilation. Donc en fait, ils sont inspirés de ça. Et apparemment, il y a d'autres pistes qui parlent qu'ils avaient d'inspiration de clowns, de choses comme ça à l'époque, mais il n'y a pas de truc un peu tangible. Enfin, on n'arrive pas à trouver de preuves. Déjà, qu'ils se disputent la paternité de la création entre les trois créateurs. Et après, il n'y a pas d'autres pistes qui indiquent quelque chose dans les différentes incarnations qui seraient inspirées. Donc peut-être que les scénaristes ont des idées, mais en tout cas, il n'y a rien de prouvé. Et surtout que le Joker, ce n'est pas un tueur, c'est pas un tueur de masse, ce n'est pas un tueur en série. Il choisit ses cibles. Donc en fait, des fois, il menace ou il essaie de tuer beaucoup de gens, mais c'est pour faire plier une personne, souvent Batman. Mais il n'a pas ce côté « je tue random ». S'il tue, il y a une espèce de raison derrière, donc je sais pas si le tueur en série est vraiment une bonne piste.
En tout cas, le clown maléfique, il y a un truc avec les clowns. On sait pas ce que c'est. Dans notre monde, on est effrayé un peu par les clowns. Il y a la coulrophobie, mais même sans ça, il y a toujours un truc un petit peu étrange avec les clowns. Je pense que les deux l'ont bien incarné, chacun à leur manière. Ouais. En tout cas, il y a eu d'autres personnages de méchants clowns dans la pop culture. Il y a eu les Killer Clowns.
Il y a American Horror Story, ils l'ont fait aussi.
Il y a Ronald McDonald.
Et il tue d'une autre façon. Il tue à long terme. Il tue à long terme.
Mais il tue.
Non, mais en tout cas, le trait commun de tous les clowns, c'est le côté imprévisible. Et c'est peut-être ça aussi qui est très effrayant.
Un peu fou, c'est que
d'un coup, ça peut partir de l'autre côté.
Mais même dans Dumbo, je trouve qu'ils font peur, les clowns.
Ouais, exactement, ouais.
Bon, écoutez, moi, j'arrive pas à les départager. Je suis désolé, mais je crois qu'on va faire match nul sur ce point-là. Ils sont tous les deux aussi méchants l'un que l'autre. Je peux pas les départager. Je peux pas départager la méchanceté.
Donc c'est le dernier round qui va nous départager.
Exactement.
Alors. Ah là là.
Ah, comme je suis heureux, les enfants. Le Joker qui se moque de Batman en emportant cette fabuleuse collection de bijoux dont on nous rabâche les oreilles, c'est à mourir de rire. Ah, mes compagnons, c'est le plus beau jour de ma vie. J'en ai le cœur qui éclate. Désolé de vous troubler en un pareil moment, Joker.
Mais nous devons nous aussi penser à notre collection.
Ôtez-les de ma vue.
Attention, Batman. Batman! Batman résistera-t-il à ce diabolique prince des clowns?
Donc nous sommes à 2-1, en théorie il ne reste qu'un seul round, peut-être qu'il y aura un tie-break comme on dit au tennis, s'il y a égalité après ce round-là, ou peut-être que c'est la fin. Et la question est toute simple, et je sais que c'est celle que vous attendez tous, qui gagnerait dans un combat direct? Alors, je sais pas, vous avez sans doute préparé chacun des petits arguments, j'en suis sûr.
Moi, j'ai la liste de tous ses pouvoirs surnaturels pour montrer un peu la panoplie de ce qu'il peut faire. Déjà, je l'ai dit un petit peu, il influence les adultes, notamment pour laisser ses proies sans aide, c'est-à-dire que quand les enfants sont en détresse, les parents n'en ont aucune idée. On le voit beaucoup, ça aussi, dans les adaptations avec des parents qui sont complètement absents. Parce qu'on passe le premier film de 2017, on passe 2h30 avec des enfants et on doit avoir 3 parents. Dont une qui est une mère un peu sadique aussi, on sent l'influence de Gripsou. Il éveille aucun soupçon, donc il aura jamais une vie l'ado, il peut se promener sans qu'on l'embête, donc il a pour lui de son côté, il a son anonymat parce qu'il vit caché, on sait pas qu'il est là, on sait pas ce qui se passe. Il a pas sur le dos un multimillionnaire qui se prend pour un héros collant et avec toute une ville aussi qui veut sa peau et qu'il a identifié comme méchant. Il est là, il mange et il repart. Donc il est multimorphe, on l'a dit. Après, pour être honnête, il a une faille dans le fait d'être multimorphe, c'est qu'il a les propriétés de la forme qu'il prend. Donc s'il se change en chat, il craint l'eau. En gros, d'accord. C'est ça. Donc il prend pas non plus n'importe quelle forme. Il peut créer des illusions et des hallucinations qui sont capables de toucher ses victimes. Il peut se rendre invisible, il peut se régénérer, il est télépathe, il lit nos esprits, nos pensées, notre passé, nos peurs pour en jouer sur nous. Il peut se téléporter, il peut contrôler son environnement et il peut plonger dans un état catatonique, voire rendre fou les personnes. En fait, il vient donc d'un autre univers. Il est fait d'une matière qu'on appelle les lumières mortes, qui sont pour nous inconcevables, en fait. On a des esprits trop simplistes et trop imagés. Et il est capable de nous faire voir ces lumières-là, et ça nous rend soit fou, soit catatonique, en fonction des versions. Chez King, c'est fou. Chez les Muschietti, dans la version récente, c'est catatonique. C'est le moment, pour ceux qui l'ont vu, le premier chapitre, où Bev, elle flotte dans les airs parce qu'elle a vu les lumières mortes quand il ouvre grand sa gueule. C'est ça, en fait.
C'est très Lovecraftien, là.
Oui, King, il est très, très influencé par Lovecraft. Il le dit, en plus, il s'en cache pas. Il a lu, il relit tout. C'est très proche de son univers. Après, sur la question du combat, est-ce qu'on peut battre Gripsou ? Ça, c'est pas sûr. Chez King, il a perdu deux combats. Un premier quand les jeunes sont jeunes, du coup, et un deuxième quand ils sont adultes. Mais quand on lit les autres œuvres de King, parce que chez King, tout est relié, il y a un vrai Kingverse. Quand on lit les romans d'après, il y a des occurrences de un personnage dans les égouts, un homme qui travaille dans les égouts dans une nouvelle qui sort complètement apeuré parce qu'il a vu une lumière qui lui a fait peur. Il y a dans Dreamcatcher, il y a un tag qui dit Pennywise is alive. Il y a plein de choses comme ça. On se dit, en fait, ils l'ont battu. Mais ils l'ont certainement pas tué, parce que ça reste quand même la représentante du mal dans son univers. Donc si on tue le mal, on tue le bien. En fait, les deux sont indissociables. Donc on peut pas se passer de l'un sans l'autre. Il y a ça. Et il y a aussi le fait qu'il est battu par des enfants, parce qu'il est battu par l'imagination des enfants. Il y a un truc un peu Peter Pan, si tu y crois, si tu crois aux fées, les fées, elles vivront. Il y a une mécanique un peu comme ça, qui fait qu'un adulte, s'il est adulte, et surtout s'il a un esprit un peu étriqué, un peu à la Joker, justement, un peu psychopathe, il va pas avoir les clés rationnelles et propres à l'imagination de l'enfant pour le battre. Et quand le club des losers est adulte, ils arrivent à le battre parce qu'ils ont complètement régressé. Et ça, on voit qu'ils reviennent tous à leur état d'enfant. Parce que typiquement, Bill, quand il est jeune, il bégaye. Quand il est adulte, il bégaye plus. Mais quand il est adulte et qu'il recombat Gripsou, il rebégaye. Donc, c'est des adultes qui sont revenus dans des corps d'ado. Donc, il n'y a que des jeunes avec des esprits d'enfants qui peuvent réussir à venir à bout de ça. Ou en tout cas, de raccourcir son cycle de présence sur Terre. Parce qu'il repart, en fait. Il meurt pas vraiment, il repart. Il repart, et peut-être que du coup, il se trouve une autre planète quelque part pour manger d'autres gens qui sont moins relous.
Alors, est-ce que le Joker pourrait être un adulte qui revient à un état d'enfant ou pas?
En tout cas, il se fait pas battre par des enfants, hein, mais... si je peux commencer de manière
démoniale. Gripsou, il meurt jamais. Dans aucun livre, aucun film, rien, il ne meurt pas.
Sans rire, là, ça va être dur de faire la comparaison en vrai, parce que, donc, comme on le disait, Joker a pas vraiment de pouvoir.
Ouais. Ah, ça lui arrive des fois.
Ça lui arrive. Alors, il a récupéré plusieurs fois des pouvoirs. Donc, on a parlé du Batman Metal, où là, il a le virus Joker et il peut contaminer d'autres super-héros. Ouais. Il a eu une incarnation où, en fait.
Mais il est quand même mort.
Comment ?
Mais il est quand même mort.
Oui, il est mort plusieurs fois. Ouais. Il y a eu plusieurs.
Mais il est mort, j'insiste.
Oui. Et puis il a récupéré des pouvoirs d'un ennemi de Batman. Donc je vais essayer de le prononcer. Mixeseye Pitlit.
Ah oui.
Donc il y a un lutin qui vient d'une autre dimension et qui a tous les pouvoirs. Et en fait, le Joker, en récupérant ces pouvoirs-là, a refaçonné l'univers à sa sauce.
Et puis il a pas. Dans l'histoire de Metal, je crois qu'il y a un Joker qui vient de chaque univers ayant pris les pouvoirs d'un super-héros de la Justice League, non ?
Voilà, c'est ça, en fait, il se contamine, cannibalise, donc il y a ça.
Un Joker Flash, un Joker Green Lantern, etc.,
ouais,
je crois.
Dans les dernières occurrences, mais c'est un peu l'idée du zombie un peu revisité, quoi. Il y a un peu cette idée-là. Donc ça, c'est le côté un peu pouvoir, mais à la limite, c'est anecdotique. C'est vraiment à la marge. Son vrai grand pouvoir, ouais, c'est surtout sa force de persuasion. Il a le côté, on le voit dans les films, donc dans le film de Joker avec Joaquin Phoenix, c'est-à-dire qu'il soulève, là, il soulève la foule, quoi. À la fin, tout le monde est avec lui, les gens commettent des choses en son nom. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup les médias, et depuis le premier Batman, c'est-à-dire... dès le tout début des années 40, il était déjà très lié aux médias. En fait, il passait à la télé ou à la radio, il annonçait ses crimes, des choses comme ça. Et ça, on l'a conservé jusqu'au bout. Et donc, il a ce côté un peu leader malsain, je sais pas comment on pourrait dire, un peu à l'Adolf Hitler, c'est-à-dire qu'il il séduit par ses paroles et par ses actes. Il peut emmener avec lui beaucoup de monde. Et dans le White Knight dont on parlait, là aussi, là, il y a tout le monde qui veut voter pour lui. Enfin, tout le monde est rallié à sa cause. Mais effectivement, il n'a pas de pouvoir. Donc en combat singulier, c'est pas possible. le Joker, de toute façon, dans toutes les incarnations, on le voit, c'est plus un combattant de l'ombre, quoi. C'est un commando. C'est-à-dire, il organise des trucs très élaborés. Il arrive à empoisonner une ville entière.
Il a un côté gangster, en fait.
Voilà, il ligue tous les méchants. C'est souvent le parrain de la mafia. Enfin, il est souvent le chef de tous les méchants. Il y a ce côté-là, quoi. Donc c'est ça, c'est vrai pouvoir. Mais effectivement, il a pas de pouvoir. Ouais. Magique et corps à corps. Généralement, dans ses incarnations, il est très faible au corps à corps. Il y a quelques fois où on ne sait pas pourquoi il arrive à combattre Batman à main nue. Il est très costaud alors qu'il n'est pas censé avoir ce bagage-là. Mais ce n'est pas son point fort.
Est-ce que c'est un humain ? Il est présenté comme un humain ?
Voilà, c'est un humain. Okay. Alors, selon les incarnations, il a au côté aussi un peu... il est tombé dans des produits chimiques, donc il est censé aussi avoir eu une mutation. Donc c'est
le
ce qu'on...
Obélix de DC.
Non, pas à ce moment-là, mais c'est ce qu'on voit dans le Batman de Tim Burton qui est inspiré donc, dans ce fameux Killing Joke. Donc il tombe dans une cuve de produits chimiques et on sait que dans l'univers DC, ça provoque toujours des mutations. Donc lui, il a ce visage, il est résistant au poison, il y a pas mal de choses comme ça, mais on ne sait pas l'étendue de ce qu'il peut faire. Okay.
Bon, je pense que Joker peut pas test, mais à ton avis, s'il devait essayer de faire la peau à Gripsou, comment il ferait à ton avis ?
Ah bah il ferait comme d'hab, s'il serait très organisé, ça serait un plan à long terme, il se servirait de ses 27 années où il n'est pas là pour évidemment ce que lui ne va pas oublier, et il va monter un plan, voilà, ça, c'est ce qu'on voit un peu dans tous les Jokers iconiques, c'est que tout est très structuré, tout est très élaboré, c'est toujours des choses très malines, pointues, il a l'air un peu fou, fantasque, on a l'impression que tout lui échappe des mains, etc. Mais en fait, tout est millimétré, on le voit bien dans le film de Nolan, quand il menace Batman avec la bombe sur le bateau, enfin, tout est hyper calculé, il est assez marrant... Il a assez bien fait, ouais.
Ce que n'a pas vraiment Gripsou. C'est là où, oui, il peut y avoir un effet de surprise. Gripsou, il est là pour se nourrir, il chasse.
Il est assoiffé
par le sang, il a juste envie de manger et il n'a pas ce côté stratégie derrière à ficeler des plans, il n'a pas du tout ça.
Bon, donc il faudrait demander à Stephen King peut-être d'écrire une histoire où Gripsou rencontre le Joker pour qu'on sache vraiment, mais nous, on va partir du principe que quand même...
Encore à corps.
Peut-être qu'il arriverait, ça serait sans doute comme dans ça finalement, il arriverait peut-être à le battre, mais Gripsou reviendrait toujours en fait.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Bon, écoutez, Gripsou gagne. À la surprise, peut-être à la surprise générale.
Ouais, c'est ça.
Mais Gripsou gagne, hein. C'est ça la vie. Hein.
C'est comme ça.
Choisir, c'est renoncer. Bon, bah merci beaucoup Émilie, merci Thomas.
Merci. Ouais.
Où est-ce qu'on peut vous retrouver ?
Moi, la porte d'entrée, c'est stephenkingfrance.fr. Depuis le site, il y a tous les réseaux sociaux. Il y a, pour ceux qui veulent en discuter, groupe Facebook, serveur Discord, machin. Et pareil pour écouter les deux podcasts, Le Roi Steven et La Gazette du Maine, stephenkingfrance.fr, il y a toutes les infos.
Super. Et Thomas ?
Eh ben, venez sur Bubble, donc c'est appbubble.co. Et j'ai justement fait un dossier spécial Joker, les meilleurs albums à lire pour comprendre les films. Et si vous avez un peu de curiosité aussi sur The Cold Case, le podcast qui s'intéresse à la pop culture, et donc il y a un Batman aussi dedans.
Très bien. On en profite pour rappeler que bah, du coup ça épisode 2 vient de sortir en Blu-ray et en vidéo à la demande et le Joker de Todd Phillips va sortir incessamment sous peu avant la fin du mois de janvier,
c'est ça, et entre temps il y aura les Oscars, donc peut-être il y aura beaucoup de battage médiatique autour de ça, parce
tout
que
à
ce,
fait,
ce
ouais.
film ouais il est très très très
avec 11 nominations et déjà ce qu'il a gagné avant, ce serait difficile qu'il reparte des Oscars bredouille,
voilà c'est ça,
c'est un peu inimaginable hein,
ouais ouais, et puis après les Golden Globes et tout, enfin généralement c'est c'est le boulevard pour aller aux Oscars. Et Joaquin Phoenix est assez encensé. Enfin, c'est
Oui, il va revenir avec pas mal de statuettes, je pense.
Il porte ça vraiment très bien, quoi.
Bon. Et puis on remercie le restaurant Mangeavé pour son accueil. Nous étions en direct du Mangeavé. Comme ça, vous savez tout. C'est qui plus fort est un podcast produit par Micro Stockholm, animé et réalisé par moi-même, Martin Gamara. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, c'est qui plus fort sur Twitter et Facebook. Vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee si vous le souhaitez. Le lien est en description. Et puis, n'hésitez pas à nous dire sur les réseaux sociaux si vous êtes d'accord avec l'issue de ce combat ou pas.
On peut refaire le match sur Twitter.
On refait le match quand vous voulez. Eh bien, merci. Merci à vous.
Merci.
Et à très bientôt.
Salut.
Salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.